Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour à tous, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu, aux créateurs de contenu, à ceux qui veulent s'exprimer sur Internet, sur les réseaux sociaux, un petit peu partout, faire connaître leur contenu, se faire connaître, créer leur marque personnelle, vendre en ligne, je ne sais pas quels sont d'ailleurs vos projets. Tout ce que je vous raconte, de toute façon, a trait à toutes ces thématiques-là, et je le dis souvent à mes étudiants, toutes ces thématiques-là sont liées entre elles, puisque n'importe qui sur Internet qui se connecte a la même capacité d'être quelqu'un qui peut consulter, quelqu'un qui peut parler, s'exprimer, diffuser des choses, mais aussi quelqu'un qui peut vendre, et bien sûr qui peut acheter. On a tous les mêmes casquettes, on peut tout faire. C'est à nous de saisir les opportunités. Alors aujourd'hui, je dois vous prévenir, je ne sais pas si cet épisode de podcast aura une réponse finale. C'est plutôt une réflexion, le lancement d'une discussion, vous voyez, les idées viennent comme ça, qui part en fait d'une question intéressante. On a commencé à en discuter avec Lionel l'autre jour, qui était de dire où placer son contenu. Peut-on le placer sur une plateforme ? Que va-t-il devenir ? Est-ce que c'est risqué ? Est-ce qu'on peut perdre son contenu ? Peut-on le placer sur Medium, par exemple ? Quel est l'avenir des plateformes ? Et même sa question était, si je me souviens bien exactement, c'était de dire, est-ce qu'il peut mettre son contenu uniquement sur du Facebook, par exemple ? Juste faire des statuts ou des articles Facebook ? Faire finalement des liens de Twitter vers Facebook, etc. Et puis n'avoir qu'une page de site où il n'y aurait que des liens vers ces différentes positions sur les réseaux sociaux. C'est ce qui se fait hein, sur certains médias purement réseaux sociaux comme ils se présentent, type Minute Buzz, AJ+, la chaîne web de Al Jazeera News par exemple. Mais bon, il y a des gens qui ont des moyens importants. Et je ne sais pas si c'est souhaitable pour tout le monde. Je vous rappelle un petit peu l'écosystème que je détaille au fur et à mesure. Hein. On a trois grands piliers de visibilité sur Internet. Le premier, c'est le web. C'est finalement se dire comment je fais pour être présent dans Google. La réponse qu'on a toujours, c'est avoir un nom de domaine, avoir un site, un blog, une boutique ou quoi que ce soit, mais surtout avoir un endroit où on stocke le contenu. En fait, vous n'êtes même pas obligé d'avoir un nom de domaine, parce que si vous le mettez sur WordPress en gratuit, votre contenu, il existe sur Internet, c'est juste que le jour où vous voulez vous déplacer, c'est un petit peu pénible. Vous pouvez le mettre sur Medium, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui le mettent sur Medium. Je vous l'ai dit l'autre jour, j'entends des gens qui disent, de toute façon, Medium, c'est le YouTube du texte. Bon, on ne sait pas trop où va Medium, hein, pour l'instant. Vous avez des générateurs de sites, etc. Mais quelque part, ce contenu, il peut exister. Et puis, on tape dans tout ce qui est référencement, etc. Le deuxième axe, c'est le mail. L'email, alors que vous envoyez soit par des plateformes type MailChimp, etc. Je vous parlerai de l'outil que j'utilise pour envoyer moi les mails, mes newsletters en ce moment. Mais ça peut être aussi tout simplement le mail que vous envoyez à quelques personnes. Tout simplement, vous envoyez un mail à 3-4 personnes pour leur faire savoir que ce que vous venez de faire existe, etc. Et qu'il est présent quelque part. Je peux vous dire, à la limite, c'est pas la peine de faire un mail à 10 000 personnes ou à 1 000 ou d'acheter des bases de données. Des fois, peut-être vous faites un mail à 2-3 personnes que vous avez croisées en leur demandant de vous aider à un coup de main pour le faire connaître. Ça peut suffire pour vous donner un premier aspect. Le troisième axe, ce sont les réseaux sociaux. C'est bien. Bon, bien, c'est là où on parle Instagram, Twitter, tout ça. Là, je vous fais pas de dessin, vous avez compris. Le but du jeu, quand on parle d'écosystème, c'est de faire circuler l'information. On a des gens qui aiment bien certains réseaux, voilà. Hier j'ai lu par exemple que Snapchat allait être le nouveau média, enfin tuer tous les médias, etc. Ou, je sais pas, c'est toujours des réflexions qui sont comme ça. Est-ce que c'est Snapchat qui va l'emporter ? Est-ce que c'est Facebook qui va l'emporter ? Est-ce qu'Instagram va finir par tuer Snapchat ou le laisser dans une niche ? un petit peu comme Facebook a réussi à le faire avec Twitter, parce que rappelez-vous, à une époque, par exemple, notre ami Mark Zuckerberg était obsédé par le fil Twitter, ce fil d'actu Twitter ça l'obsédait. Facebook a été largement modifié pour faire ce fil, que nous inciter à poster des statuts de l'actu. Ça marche très bien. Moi, je connais des gens, par exemple, qui mettent peut-être 10 statuts dans la journée, qui postent de l'info en continu sur Facebook. Alors, vous voyez pas tout, mais eux, ils le font. L'idée de l'écosystème, c'est on fait circuler les informations, les idées, les visiteurs entre ces outils. On les capte d'un côté, on les déplace de l'autre. Il y a des choses qu'on ne peut faire que à certains endroits. Par exemple, Facebook a une fonction boutique, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas vendre en ligne. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas mis le bouton acheter et pourquoi il y a. Rappelez à une époque, je ne sais même pas s'ils existent encore, il y avait les crédits Facebook, les Facebook Credit. C'était, imaginez des crédits Facebook, vous achetez des trucs avec du dollar Facebook ou de l'euro Facebook, ou je sais pas, un peu comme on faisait à l'époque avec du Linden dollar dans Second Life, rappelez-vous cette belle époque. Enfin, cette belle époque, moi j'y ai passé beaucoup de temps, et je sais que certains qui écoutent en ont passé encore plus de temps que moi, et ils voient très bien que cette monnaie, ce qu'elle représentait. Mais quelque part, on pourrait dire sur Facebook, on pourrait avoir cette sorte de monnaie interne, etc. Ou même du carrément acheter avec des vrais dollars, des vrais euros, je ne sais pas. Et ils pourraient mettre juste un bouton, voilà, vous payez, etc. Mais d'ailleurs, ils le feront forcément, puisqu'ils vont aller sur les terrains de Kickstarter, ils vont faire des groupes où vous pourrez financer des projets, etc. C'est-à-dire que au lieu de faire un Kickstarter, un Ulule ou un Patreon en disant financez-moi, et ben il vous mettrait ça sur votre page Facebook, qui renverra vers Patreon, vers Kickstarter, ben vous mettrez ça sur votre page Facebook, ils mettront le bouton donner de l'argent directement. En fait, on est dans cette plateformisation complète, et dans cet écosystème, en fait, il est largement modifié par la taille de ces plateformes. Moi, je pense toujours que pour l'instant, on ne peut pas se passer d'un site ou d'un blog. Je vous disais tout à l'heure, les Minute Buzz, Al Jazeera News et compagnie, là, tous ces trucs-là, il y a plein de... Mais même un média comme Brut, c'est génial comme média, mais leurs vidéos, etc., elles ont une viralité qui est incroyable. Ils vont avoir des bureaux à droite, à gauche, etc. Mais en fait, je me demande quel est le business plan de Brut. Moi, j'ai du mal à croire que le business plan de Brut soit juste de faire de la vidéo, et de se dire, quand vous mettez la vidéo sur Facebook, de toute façon, elle n'est pas monétisée. Donc, est-ce qu'ils vont dire un jour, ils ne vont pas dire à Facebook, bon, écoute, mon ami Facebook, t'es bien sympa, c'est nous qui avons tout le contenu, tu vas nous donner de l'argent pour qu'on mette des vidéos suivantes. Les youtubeurs, etc., n'ont pas le poids de le faire, et qui a le poids de faire ça réellement? Parce que Facebook, il vous dit, écoutez, moi, je vous coupe la main, vous n'avez plus la visibilité. Imaginez, vous appelez Brut, ou n'importe lequel de ces outils-là. Je pensais souvent à BuzzFeed avec les pages Testy et compagnie. Le moyen de financer, c'est de vous dire, bon bah, de temps en temps, on va glisser une vidéo qui est publicitaire, qui a été achetée par un sponsor ou un partenariat. Mais quelque part, ils ont un autre business qui est derrière. Et par exemple, Brut, c'est fait par des gens qui font la télé, donc ils montrent aussi leur capacité à faire des émissions de télé, et puis un jour, ils vendront leur émission à TF1, à Canal+, ou à je sais pas qui. Mais ils auront une telle puissance de visibilité avec ce qu'ils ont fait sur Internet que quelque part, on leur demandera de venir sur d'autres supports, sur d'autres formats, etc. Moi, c'est mon sentiment que j'ai, vous voyez. Mais quand on est des gens comme nous, à la limite, il ne faut pas se tromper de combat. Je veux dire que c'est un bon combat que vous pouvez avoir. Par exemple, vous pourriez très bien dire que votre but du jeu, c'est de faire comme ceux qui ont fait, les gens comme Y Penser, etc., qui font des bouquins. Et considérez que finalement, lancer une chaîne YouTube, un blog, un podcast, c'est ce qui vous permet de financer le passage à écrire un livre, écrire je sais pas quoi. Il y a plein d'auteurs qui ont fonctionné de cette manière-là. Il y en a même qui font... Hier, je faisais des recherches sur les groupes Facebook, etc., puisque j'ai créé mon groupe Facebook hier. Il y a plein de gens qui font des trucs comme ça en disant, bah tiens, on va faire un groupe, et puis les gens qui veulent participer à l'écriture du bouquin, etc., on va les faire participer à ça. Il y a plein de... On pourrait très bien dire, voilà, je fais une chaîne YouTube dans laquelle je vais vous montrer mon contenu, etc. Et puis, je vais créer une audience, une belle audience. Et quand cette audience est créée, derrière, je vais lui vendre un bouquin, je vais lui vendre un film au cinéma, je vais vendre... Certains vont vendre des formations, certains vont vendre des bouquins en ligne, mais certains vont vendre des vrais bouquins, des vrais... avec du vrai papier, quoi, enfin, quelque chose. Mais le business plan de leur truc, c'est pas de vivre de la publicité de YouTube, parce que la pub qu'il y a sur YouTube, elle vous rapporte quoi? Moi, j'ai regardé l'autre jour, j'ai gagné 27 centimes. C'est chouette. Sur mon site internet, sur cyberbounia.net, l'autre jour, le mois de juin, quand je fais le bilan, j'ai gagné 27 euros. Alors, c'est sûr, l'audience a été en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a des jours, ça fait 6000 vues dans la journée, et d'autres jours, ça en fait 500, parce que c'est dans de l'actu chaude, etc. Mais ça, c'est on est trop dépendant de ça. Et d'ailleurs, je vais vous en parler un poil plus tard. Et donc, quelque part, quel est votre business et comment vous pensez, si vous voulez gagner de l'argent, c'est comment vous allez gagner votre argent après, quoi. Si, quelque part, votre argent, quelque part, si votre truc, c'est de vendre du bouquin ou je sais pas quoi plus tard, vous pouvez créer une audience et la mettre n'importe où, la constituer n'importe où, cette audience, et vous dire, ben, une fois que je l'aurai, je la monétise non pas en lui vendant de la pub ou en lui vendant des trucs qui vont passer entre les mailles du filet, mais quelque part, une fois que j'ai cette audience, je peux lui proposer n'importe quel produit derrière. C'est les sociétés, les entreprises, en fait, les startups américaines, il y en a plein, celles qui sont dans les médias, dans les contenus, etc., on le voit beaucoup. Si vous regardez des blogs comme les sociétés de CoSchedule, Delivery, Buffer, etc., regardez la qualité, le contenu, la masse de contenu que ces gens-là produisent. Alors bien sûr, leur boulot à eux, c'est de vous faire des outils pour se reconnaître sur les réseaux sociaux, pour gérer du blog, etc. Mais c'est des gens qui créent d'abord une audience et ensuite derrière, vous revenez toujours chez eux, quoi. Quand vous cherchez des informations sur le domaine, vous finissez toujours par revenir chez eux. Et au bout d'un moment, ce contenu-là qu'ils ont fait, ils le monétisent d'une autre manière. Mais je regardais par exemple des gens aussi qui, par exemple, vous avez déjà donné l'exemple d'Erwan Manteur, là, l'ancien cycliste qui fait comment ça s'appelle, j'ai même perdu le nom, qui fait des programmes de FitNext, voilà, qui fait de la remise en forme, etc., des coachings en ligne avec des menus et autres. À un bout d'un moment, alors, il fait un contenu régulier qui est très bonne qualité. Et au bout d'un moment, à force de revenir toujours sur ce contenu, il va vous dire, bon bah, si tu veux passer l'étape suivante, tu t'abonnes, puis c'est cher, hein, ça peut monter à 45 euros par mois, son histoire. Tu t'abonnes et tu auras tout le contenu qu'il y a derrière. Alors des fois c'est super bien, des fois c'est un peu déceptif. Moi j'étais abonné un mois à FitNext, j'ai eu un mois gratuit. Au bout de 10 jours j'étais rincé, quoi. Enfin ça m'intéressait plus. Il y a d'autres gens hein, comme ça que je sais qui il y a des trucs qui vous paraissent qui paraissent super intéressants vu de l'extérieur et puis une fois qu'on est dedans on y trouve moins intéressant. Mais ça c'est le jeu, quoi. Ça arrive à tout le monde, hein. Moi des fois je suis sûr que je fais des formations ou des cours, les étudiants ou les personnes formées qui en sortent, elles disent ouais, c'était pas si génial que ça. Et puis vous-même peut-être qu'à la fin de ce podcast vous allez dire mais merde, il m'a fait perdre mon temps. Voilà, c'est le jeu. Et alors moi mon truc c'est d'essayer de maximiser au maximum votre satisfaction et comme je dis à mes élèves d'ailleurs, je leur dis un truc qui est toujours vrai. Ma logique à moi quand je vais dans un cours, c'est je veux que vous sortiez de ce cours en ayant envie de revenir au prochain, et c'est pareil pour moi, j'ai envie, quand je finis un cours, de revenir au suivant, et en fait, je l'applique exactement au podcast. Si je finissais le truc de podcast en me disant, oh punaise, que c'était chiant aujourd'hui, je me suis fait chier, et que demain, je devais traîner les pieds pour le faire, je le ferais pas. Voilà, donc, vous voyez ma réflexion sur ce type de contenu, on en est là. Mais, pour revenir à la plateformisation, elles ont une caractéristique, ces plateformes, c'est qu'elles ont, elles nous ont fait croire, ou elles nous font croire, ou elles, je sais pas comment le dire. Ils ont tellement d'as de la psychologie de persuasion dans ces trucs-là que, quand on est dans la bataille de l'attention, la logique du truc, c'est de dire, il faut qu'on arrive à faire venir les gens chez nous et qu'on les garde. Alors, sur les plateformes du web telles que YouTube, Facebook, etc., le truc, et puis regardez les dernières stats de YouTube, c'est incroyable comme ça marche, il y a 1,5 milliard de gens qui se connectent dessus, ou de contenu, je sais plus comment est la stat, mais de gens qui passent une heure par jour à regarder la vidéo sur YouTube. Je veux dire, si vous êtes une chaîne de télé, vous prenez peur hein, dans l'histoire. Et donc, ces plateformes, en fait, elles vous disent, eh ben, c'est chez nous que ça se passe, mettez tout chez nous, parce qu'on vous fournit de l'audience. C'est ce que vous dit Facebook, vous dit, ben voilà, vous créez une page Facebook, vous avez 2 milliards de personnes. Hier, j'avais le petit message qui dit, on vous remercie, nous sommes 2 milliards, c'est grâce à vous. En fait, ils vous disent, voilà, il y a 2 milliards de personnes, vous pouvez leur parler à ces 2 milliards. Et quand vous êtes sur les pages business de Facebook, ils vous disent un truc, ils vous disent, vous, en tant qu'entreprise, vous connaissez votre cible, votre business, et nous, on connaît les gens à qui sont intéressés potentiellement, et on va vous mettre en relation avec ces gens-là. Là, c'est la promesse. Et donc, quand on vous dit chez Facebook, on vous dit, parce que leur guerre, c'est ils veulent bouffer YouTube. Faut pas se leurrer, hein, pour l'attention de la vidéo. Ils le savent que les gens veulent de la vidéo, etc. Ils pensent pas que les gens veulent du son encore. Parce que c'est bizarre, hein, Facebook est un endroit où, sur le son, sur le podcast, c'est l'endroit où ils sont pas encore très bons là-dessus. Et donc, ils vont vous dire, ben, si vous voulez que votre vidéo ait du succès sur Facebook, mettez-la sur Facebook, en natif. Parce que toute vidéo que vous mettez sur YouTube et que vous relayez sur Facebook, ça sera juste considéré comme un lien. Et dans l'algorithme de Facebook, dans les calculs d'algorithme, bah, un contenu natif chez Facebook a plus de succès, a plus de chances d'être vu qu'un contenu qui est lié vers l'extérieur. C'est pareil d'ailleurs, si vous mettez un article, vous avez la fonctionnalité article. Je parle pas des des statuts ni des anciennes notes, je parle vraiment des articles. Vous savez, ça ressemble à... On dirait du médium. Vous pouvez mettre une grande image en haut, des petites images à droite, à gauche, une vraie mise en page, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous dire un jour, ils vont vous dire, de toute façon, mettez votre contenu en article, il aura plus de chances d'être vu que si vous mettez un article sur votre blog que vous relayez sur Facebook. Parce que chez eux, le contenu natif a plus de poids dans l'algorithme et dans le calcul que n'importe quel autre contenu. Et donc, la logique de ça, c'est que quelque part, vous êtes coincé en vous disant, soit je mets mon contenu sur mon blog ou sur je sais pas où, et ensuite je le fais connaître sur ces outils-là, en étant un peu dégradé, soit je joue le jeu et je mets mon contenu chez eux. Alors on est dans un monde de duplication. C'est tout se duplique, tout se multiplie, mais on joue le jeu de la multiplication. Moi par exemple, quand je fais du vlog, j'ai une tendance à faire un truc, c'est de dire, bah, je mets ma vidéo sur YouTube, et puis je vais mettre ma vidéo sur Facebook en natif. Alors des fois je laisse la fin, vous voyez, je m'emmerde pas, parce que pourquoi? Parce que je me dis, les gens, de toute façon, les 5 dernières secondes où normalement il y a la signature YouTube à la fin, ils la verront pas forcément. Mais ça se duplique. Et puis alors derrière, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va essayer de faire d'autres trucs, on va mettre des extraits sur Instagram. Si votre vidéo fait moins d'une minute, bon, à la limite vous la mettez entièrement sur Instagram. Vous allez faire des snaps, etc. Donc on va multiplier, par exemple, un billet de blog. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur les billets de blog? Eh ben, on met un billet sur son blog, et puis on dit, bah tiens, sur Medium, il y a de la vue. Alors on le met sur Medium. Et qu'est-ce qu'on fait sur Medium? On met un truc en disant, ce contenu a été publié originalement sur mon blog. On réplique. Medium a un outil qui le fait d'ailleurs. Vous mettez l'URL de votre... Enfin, je sais pas s'il marche encore d'ailleurs, ce truc. Il y avait un moment où vous mettiez l'URL de votre billet de blog, et Medium veut vous l'aspirer. Et ensuite, il vous le présente directement chez vous, sur Medium. Et bien sûr, la logique du médium, c'est pas leur logique à eux, c'est de dire, mettez votre contenu prioritairement sur Medium. C'est pas la peine de le mettre ailleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour faire ça? Ils ont créé les publications avec un nom de domaine. Le nom de domaine était même gratuit. L'outil de migration de votre blog WordPress vers Medium était gratos. Alors maintenant, c'est 75€, je crois, la mise en place de la publication. Moi, j'ai une publication, c'est soulier.xyz. Il n'y a rien dessus. Franchement, je vous le dis, parce que Medium, ça fait quelques temps que j'ai pas mis des choses, mais il y a, par exemple, je vais mettre sur Medium un article de présentation du podcast. C'est logique, mais il est sur mon blog pour l'instant, mais je vais en faire un autre pour spécifique à Medium, voilà. Donc on est en train de dupliquer notre contenu. Et puis je vous rajoute pas sur LinkedIn. Et à LinkedIn, vous avez Pulse. Pulse, c'est pareil. Hier, j'ai lu un ou deux articles sur LinkedIn Pulse. C'est des choses qu'on trouverait sur un blog. Et d'ailleurs, les auteurs le mettent des fois, certains, sur leur blog. Alors ils ont une astuce un petit peu à la con. Par exemple, il y en a un, il a mis un article et puis il a mis une citation d'une phrase en citation dans son billet sur LinkedIn avec la source, et quand vous tapez sur la source, vous retombez sur un autre article de lui-même sur un autre site qui n'est pas encore le sien. Et au final, tout ça, c'est pour générer une espèce de lien en disant, bah tiens, je vais essayer de les amener vers mon site final, ou au moins d'endroit en endroit. Mais en fait, tous les contenus comme ça, on est en train de les dupliquer. Regardez par exemple le podcast. Qu'est-ce que je peux faire de ce podcast? Moi, je publie sur Spreaker. C'est ma plateforme. J'aurais pu mettre sur SoundCloud, mais l'autre jour, je me suis posé la question parce que Spreaker a même un bouton exporter vers SoundCloud. Mon outil que j'utilise à Hindenburg, il peut m'enregistrer directement sur SoundCloud, etc. Mais la question était de me dire, si je mets sur SoundCloud, si j'écoute SoundCloud, il faudrait que je le mette chez eux parce qu'il aurait plus de succès. Moi, j'aime bien Spreaker. Je trouve que la plateforme est top. Je paye mon petit abonnement tous les mois là-dessus, en hébergement. Parce que j'ai pas envie de mettre le son sur mon site, sur mes hébergements, parce que je sais que ça va prendre de la place. Et en fait, c'est là où ils sont forts, ces trucs-là, c'est parce qu'ils nous facilitent la vie. Mais pour en revenir au podcast, par exemple, donc là, je le mets sur Spreaker. Je pourrais le mettre sur SoundCloud. Je pourrais le mettre sur YouTube. Parce que Spreaker, même, d'ailleurs, me permet de le mettre directement sur YouTube. Je l'ai fait une fois, le test ou deux, etc. Ça vous fait une espèce de petite onde. Et puis, par exemple, si vous prenez un service comme Auphonic ou d'autres, vous pouvez même générer des vidéos en forme d'onde, au format carré ou même ce que vous voulez, que vous pourriez mettre directement, par exemple, sur Facebook. Et donc là, votre podcast, si je faisais ça pour mon podcast, il pourrait se retrouver, allez, sur Spreaker, SoundCloud si je le dupliquais, sur YouTube, sur Facebook. Allez, allons jusqu'au bout, je pourrais mettre sur encore.fm, etc. Il y a encore d'autres plateformes et d'autres plateformes et d'autres plateformes. Alors que le truc bête, c'est qu'à l'origine, le podcast, on peut le mettre à un endroit, et puis par la magie du RSS, de la duplication, des fils RSS, il se duplique à plein d'endroits. Quand je le mets sur iTunes, mon fichier n'est pas uploadé directement chez iTunes et compagnie, enfin chez Apple. Alors après, je dis pas qu'il n'y a pas des copies, etc., mais la source originale du fichier, elle, quelque part, elle reste à un endroit. Et c'est normal, c'est la magie du lien, parce que le lien, c'est comme ça qu'a été créé le web. Franchement, moi, le premier truc que j'ai appris quand j'ai fait un site, et comme je le rappelle à mes étudiants, mon premier site est plus vieux qu'eux, quoi. Alors, ça les fait marrer, mais bon, moi, j'ai été à l'IUT 96, 97, etc. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire mes sites. Et qu'est-ce qu'on a ? Le premier truc que j'ai appris quand j'ai ouvert un bouquin d'HTML, c'est le lien, c'est la puissance du lien et tout. Bon, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de liens à faire. On faisait des liens entre les pages, quelques liens vers des sites. On a grandi dans cette notion de lien. Moi, j'ai fait, dans mes études de gestion, j'ai fait la base de données. Dans la base de données, qu'est-ce qu'on apprend ? On met une information et cette information ne doit pas se dupliquer. Le but du jeu, alors moi j'ai fait de Murray's, UML et compagnie, c'est que l'information se duplique pas. On pourrait imaginer un web qui se duplique pas. Et ça serait quoi un web qui se duplique pas ? Ça serait un web où je mets une information, toutes les personnes qui trouvent que cette information est intéressante vont la relayer, faire un lien vers cette information source. Mais ça marche plus. Ça n'existe plus ce truc-là. On est dans un monde où la plateformisation a fait qu'on duplique le contenu, et puis on a un autre truc aussi, mais qui est totalement con, mais ça c'est la publicité qui est... C'est que l'autre truc qui est en train de nous tuer, c'est la recopie. Vous avez vu cette stat, il faut 230 secondes ou à peine, je sais même pas si c'est pas 130, pour qu'un article soit recopié. C'est-à-dire que vous avez des robots recopieurs d'articles. Alors des fois les robots c'est des humains. C'est vous voyez une information passer, un journal sort une information, tous les autres journaux vont le dupliquer. Je vous donne un exemple. On a l'autre jour un train Clermont-Paris qui s'est pas arrêté en gare de Nevers. Et donc déjà ça fait rire tout le monde parce que le train Clermont-Paris, bon c'est un bon train de merde. Et il s'est pas arrêté en train de Nevers. Et on s'est en fait rendu compte quand il s'est arrêté plus loin que d'une part il s'est pas arrêté parce que le pilote du train, enfin le chauffeur ou le conducteur, je sais pas comment vous appelez ça, était ivre et qu'il avait 3,34 g d'alcool dans le sang et qu'en plus il avait son cubi de rosé à côté de lui. Ouais, vous comprenez quand même avec 200 personnes dans le train derrière, là on a du chauffard. Et heureusement finalement qu'il n'y a pas eu d'accident quoi que ce soit. Imaginez le truc quoi. Et bien cette information-là qui est sortie par un journal local, elle a été dupliquée. Hier j'ai voulu sortir un lien, dans une discussion Facebook, vers cette information-là. J'étais halluciné par les milliers d'articles qui parlent de ça. Il y en a partout. Mais personne d'ailleurs ne fait le lien vers leur information. Alors des fois certains disent, selon celui qui aurait sorti ça, selon celui-là. En fait vous savez même plus d'où sort l'information. Et c'est le pire, c'est que là, c'est une information qui fait rigoler, parce qu'on se dit, tiens, ça c'est une attrape audience. N'importe quel journal met ça sur son site, ça fait marrer tout le monde. Mais le truc, cette espèce de contenu un peu merdique, qui se duplique, qui se reduplique en permanence, c'est un truc incroyable, quoi. Tout le monde essaie d'avoir l'information chez soi pour capter la pub, la vue, le clic, etc. Et j'ai envie de dire, à quoi bon, mais... À quoi on joue là-dedans ? Alors bien sûr, c'est la pub qui... C'est-à-dire que quand vous avez des gens qui réagissent qu'avec de la... Comment dire ? Avec un chiffre en disant « Ah, il me faut absolument des vues, il me faut... » Si déjà, le premier truc, moi, il y a un truc qui m'énerve. C'est vous croisez quelqu'un dans la rue, vous dites « Ah, j'ai un site et tout. » Il me dit « Ah, t'as combien de vues et tout ?» Déjà, ça m'énerve. Voilà. Enfin, si le premier critère qu'on me demande sur mon site, c'est combien j'ai de visiteurs sur mon site, ça me gonfle. Hier, j'ai vu des discussions sur Instagram. Vous avez vu que Instagram a démarré son programme chasseur de bots, de robots, de spammers, de trolls, etc. C'est l'intelligence artificielle derrière. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on se rend compte que, par exemple, si vous mettez votre photo avec un hashtag populaire, il y a moins de likes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les likes de tous ces robots automatiques. Vous savez, des trucs qui vous aiment automatiquement, qui vous désaiment. Et j'en ai parlé l'autre jour dans un épisode. Eh ben, forcément, si vous êtes dans un web de la stat, ça vous emmerde, ça vous fait chier, parce que au lieu d'avoir 100 j'aime sur une photo, vous vous retrouvez avec 30. Et bien, il y avait une réflexion dans un groupe, j'ai vu ça, il disait, ah ouais, mais c'est pas terrible, hein, parce que moi, quand je vais voir mes annonceurs, j'ai pas le bon nombre de personnes. Mais c'est pareil, j'ai vu des petites influenceuses à une époque qui disaient, mais pourquoi vous aimez pas mes photos? Pourquoi j'ai 50 000 abonnés et que j'ai que 3 000 likes sur mes photos? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que derrière, on leur dit, oui, mais attendez, vous nous dites que vous avez 50 000 abonnés, vous générez que 1 000 ou 2 000 likes sur une photo, votre engagement, il est merdique. Et on est là-dedans, quoi. On est dans cette espèce de truc à la con. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la presse, la presse en ligne notamment? C'est qu'ils répliquent l'information, ils répliquent. Alors, des fois, ils la répliquent avec des erreurs. Hier, si vous l'écoutez que dans quelques jours, c'est l'histoire du code de la route, là, la rumeur sur le code de la route qui change au 1er juillet avec des choses qui semblent aberrantes. C'est parti comme une traînée de poudre, on sait même plus quelle est l'information. Même la gendarmerie, quand ils mettent un communiqué de presse, on sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Bref, c'est la merde. Excusez-moi pour cet envolé, là, comme ça, mais je vous l'ai dit, je sais pas où cet épisode, où il va se finir. Parce que bon, c'est pas le truc que j'ai moi en tête du web tel que je l'ai connu, etc. Et je veux pas faire le vieux con, le vieux rabat-joie, mais moi ma croyance c'est pas ça. Je vous l'ai dit, moi j'ai été élevé j'ai grandi avec des bases de données en me disant putain, il y a une information quelque part et on va la. Si elle nous plaît, on va faire un lien vers elle. Je vous l'ai dit je crois que c'est dans un des premiers épisodes, je crois à la puissance du lien, je crois. Il faut qu'on apprenne à citer les gens plutôt que de dupliquer ce qu'ils font, que le traduire systématiquement. Le traduire en disant c'est une traduction de telle source, c'est une bonne chose. Mais le traduire sans dire que c'est une traduction, sans dire la source, etc., quelque part on est dans la mouise, quoi. Donc je crois à la puissance du lien, je crois à du contenu original, vous voyez, je crois à du contenu de qualité, au contenu. J'aime bien le contenu froid aussi, vous voyez, le contenu qu'on peut faire vivre longtemps, voilà. Je crois aussi à un truc, au contenu qu'on peut mettre à jour petit à petit. Ouais, c'est un truc que j'ai commencé à faire sur Cybermounia depuis, je crois que ça fait 2 ans que je travaille comme ça maintenant. C'est au lieu de dire, parce que ça c'est un autre truc qui m'énerve dans la presse, au lieu de dire, j'ai un match de rugby, j'ai le avant, pendant, après. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire des articles avant, article pendant avec les lives, article après avec toutes les réactions. Et je vois des trucs qui m'énervent, c'est que, par exemple, on se retrouve avec des articles de presse où il y a 3 lignes avec juste le score, il faut un autre article, 3 autres lignes, un autre article. En tant que lecteur, ça m'emmerde. Mais je comprends leur logique. Voilà, je passe un article à l'autre, je fais de la page vue, etc. Moi, en tant que lecteur, ça m'emmerde. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur Cybermounia? J'ai fait de l'article de référence. Je crois, en fait, à ces pages de référence. C'est-à-dire que sur une seule page, vous trouvez tout. Le avant, le résumé du match, le après, ça évolue au fur et à mesure. Mais bien sûr, c'est un truc qui me pénalise. Parce que quelque part, quand on regarde mes stats, au lieu de faire une personne vient voir une information et voit 10 pages, etc., je me retrouve avec une personne voit une page. Alors on me dit, oui, vous n'avez pas beaucoup de pages vues par rapport à un bon nombre de visiteurs. Oui, mais j'ai de la satisfaction des gens. Quand je demande aux gens, ils me disent, ah tiens, c'est cool, on n'a pas cherché 10 fois l'information, on l'a à un seul endroit. Voilà, on a un festival qui vient de se terminer à Clermont, ça s'appelle EuropaVox. Ça fait la conférence de presse EuropaVox, on l'a eu il y a 6 mois. J'aurais pu faire tous les mois, toutes les semaines, des nouveaux articles, et on va voir si, on va voir ça, on va voir ça, etc. Et à la fin, on fait que des liens vers les autres pages, etc. Mais au bout d'un moment, il y a un truc qui se dit, bah, je fais un article dessus, je ferai évoluer au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? On fait ce qu'on appelle des pages de référence. Des pages qui ont de l'autorité. Vous savez, cette notion, j'en ai parlé hier, de pages d'autorité, de référence. Enfin, de l'autorité au global. Mais on pourrait avoir des pages de référence qui ont de l'autorité, etc. Ça, il faudra que je revienne sur ce sujet-là. Donc, je crois à ce contenu qui est un petit peu ciselé, etc. Et je ne sais pas si vous connaissez Gary Vaynerchuk. qui a écrit un bouquin qui s'appelle Jab 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 Right Hook. Donc c'est des petits jabs, hein, pour garder le contact, et crochet droit pour mettre les gens KO. Je sais que ces contenus-là, en fait, on a deux types de contenus quand on... Lui, il le dit par... En disant, voilà, on a des petits contenus qui vous permettent de garder le contact, et puis de temps en temps, vous allez sortir une vraie information, celle qui va vendre les choses, celle qui... Un vrai gros truc, quoi. Mettez-vous sur les réseaux sociaux de Gary Vaynerchuk, vous allez voir la réplication de contenu. Il vous fait un podcast d'une heure, et puis il va prendre plein de petites séquences, il va prendre des trucs, il les filme en permanence. C'est du... Enfin, là, c'est de... Il a une grosse équipe, hein, pour faire ça. Et c'est vrai que c'est un système, moi, je le dis toujours, on peut faire plein de petits contenus pour garder le contact, etc. Et puis un vrai bon contenu qui vous fout une belle droite dans la gueule de temps en temps, et quand les gens le lisent, ils disent « Oh, putain, c'est le truc qu'il fallait absolument, voilà. » Ça, je suis content de l'avoir lu un jour. L'article, par exemple, j'ai mis dans ma newsletter le truc sur les 1000 vrais fans. Quand vous lisez ce truc-là, des 1000 vrais fans, vous dites « Putain, mais effectivement, c'est le truc qu'il me fallait, quoi. » C'est la réflexion exacte de... Et ça date... C'est vieux, quoi, hein, ce truc-là. Et en fait, il y a plein d'articles comme ça. Mais pour que les gens se fassent connaître, il faut mettre des petits articles. Alors, comment on est rentré dans cette ère-là? Bien sûr, il y aura un moyen de se dire « Bah, je me fais chier... » Enfin, « me fais chier », pardon, excusez-moi pour le terme, mais je passe du temps pour faire un superbe article, mais j'ai toujours peur qu'il soit répliqué par quelqu'un, etc. L'autre jour, je disais un article, le journal local, le gars me disait « C'est en train d'investir dans des outils qui vont bloquer les robots aspirateurs de contenu. » Parce que il y a des gars, des petits malins dans le monde, hein, qui ont compris le système, dans cette réplication de contenu. C'est vous sortez un bel article sur votre site, ils le répliquent, ils vont l'absorber, ils vont le mettre sur la plateforme à eux, ils vont vendre l'accès à ce contenu qui est gratuit chez vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Y a des gens qui sont en train d'être obligés d'investir dans des plateformes qui vont sécuriser ce contenu-là, qui vont le laisser gratuit, mais le sécuriser. J'ai lu aussi l'autre jour des gens qui disaient, de toute façon, il faudrait mettre tout le contenu derrière un paywall, que tout soit payant. Je sais pas, mais si on continue comme ça, on va vers un appauvrissement, c'est-à-dire qu'on va mettre quoi sur Internet? On va mettre des contenus gratuits de merde qui vont se dupliquer des milliers de fois, et puis on va mettre des contenus super bien payants que personne ne verra, et ben voilà, on va faire de la télé, du web, réalité, etc. On se plaint qu'on a une télé de merde des fois, mais... Soyons honnêtes, hein, sur le web n'est que ce qu'on en fait, et parti comme on est parti, on en met une belle merde dessus. Donc moi, vous avez compris que c'est pas trop ma logique, et puis je pense que d'ailleurs, ça doit pas être votre logique. Moi, je crois donc à ce beau contenu, ce contenu de qualité, mais quelque part, il faut le faire connaître, et c'est là où on est coincé, parce que ces plateformes, eh ben, elles nous facilitent la vie en plus. Enfin, d'une part, elles vous aident à vous faire connaître, soi-disant, et en plus, elles vous facilitent la vie. Rappelez-vous l'époque où vous mettiez une vidéo en ligne sans YouTube. Alors, les plus jeunes d'entre vous, ceux qui l'ont jamais fait, ne peuvent pas savoir, mais moi, les premières vidéos sur YouTube, avant Dailymotion, puisqu'ils sont nés, Dailymotion est né juste avant YouTube, comment on faisait? Il fallait un logiciel pour encoder les vidéos. Alors, à l'époque, sur Windows, on avait Windows, je sais plus comment ça s'appelait, là. Ouais, j'ai même perdu le nom. On mettait ça, il fallait prévoir, dire « Ah, mais il me faut un format en 3GP pour ça, un format tac, tac, tac. » Quels sont les... Maintenant, vous balancez vous exportez votre vidéo, vous la faites même sur l'iPhone, etc., sur un smartphone, vous la mettez sur YouTube, et YouTube se charge du reste. Bien sûr, ça a un prix, c'est que c'est lui qui chope le pognon, quoi, hein, la publicité, etc. D'ailleurs, je suis pas sûr, je me pose une question, je me demande, ça y est, YouTube, il y a YouTube Red, qui est le concept de dire, on paye pour ne pas voir les pubs, en tant que personne qui visionne les vidéos. Et je me demande d'ailleurs si on pourrait pas ne pas payer nous, en tant que créateur de contenu, pour que nos vidéos soient sans publicité. C'est une question que je me pose d'ailleurs. Je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient intéressés, et l'autre truc, ça serait de dire que de la publicité qu'on met nous. Enfin, voilà, je sais pas. Oui, mais c'est une réflexion que je m'étais faite comme ça. Donc, voilà, le monde de YouTube, avec YouTube, c'est quand même vachement pratique de mettre une vidéo. On se casse plus la tête de savoir comment ça a marché, si ça a bien marché, etc. Je vais quand même vous raconter une expérience. Il fut une époque où toutes les vidéos de Cyberbonia étaient hébergées sur une plateforme qui s'appelle Blip.tv, qui a totalement changé. Et ils faisaient de l'hébergement, donc je payais 9€ par mois pour avoir mes vidéos hébergées. Et un jour, Blip.tv, ils ont dit, on change de modèle, ils ont tout fermé. Et j'ai perdu je crois qu'il y avait plus d'une centaine de vidéos qui étaient sur Blip.tv. Alors j'ai toujours les sources, Mais maintenant, le jeu, c'est qu'il faudrait que j'aille prendre toutes les vidéos, que je les remette toutes sur YouTube, que je les redate, que je remette les articles, que je remodifie tous mes articles, ces vidéos étaient référencées. C'est un travail super long, j'ai pas forcément fait, alors je vais le faire sur, j'ai fait sur certains articles, etc., mais pas sur tout, quoi. Donc, bien sûr, quand vous mettez vos vidéos sur YouTube, gardez aussi une copie. Mais c'est pareil, hein, sur SoundCloud pour le son, sur Spreaker pour les podcasts, ou sur Libsyn, enfin, il y en a plein pour les podcasts. Gardez les. C'est pratique, n'empêche, hein, c'est vrai, moi je le dis. Hein. Enfin, imaginez la facilité. Enfin, ceux qui font du streetcast le savent. Si vous utilisez une application comme Opinion. Opinion, pour ceux qui ont un Android, le savent peut-être pas. Ceux qui n'ont pas utilisé ça sur iPhone, le savent pas. C'est j'ai une appli. J'appuie sur un bouton, j'enregistre du son, je peux le monter, je peux le publier sur une plateforme. C'est un podcast en sans connaissance en quelques secondes. Quelle beauté, quelle facilité. Mais moi, Opinion, je me pose toujours la question, je me dis, mais c'est quoi leur business model? Comment ils peuvent vivre? Alors bien sûr, il y a l'option payante pour faire plus de 9 minutes. Mais moi, je dis, Opinion, c'est une plateforme qui mériterait d'être payante. C'est-à-dire que leur outil est super bien, mais je pense qu'un jour, si tout le monde se met à utiliser ça, à mettre sur leur serveur, comment ils font pour vivre? Alors en plus, il y aurait des fonctions, par exemple de l'embed et compagnie, enfin, il manque des fonctions. Mais là, c'est beau, quoi. Je sais même pas, Opinion, dans quel format le son est enregistré, ce qu'il en fait. Par exemple, moi, j'enregistre avec une application qui s'appelle Ferrit, ça part par Auphonic, qui me traite ça, etc., qui me fait des fichiers et autres. Mais techniquement, ils peuvent me poser plein de questions techniques, à la limite. Si j'ai pas de connaissances, je m'en moque. J'enregistre mon son, je le publie directement sur une plateforme. Derrière, ils me mettent un lien pour partager ça sur Twitter. Ils mettent des formats pour mettre à droite, à gauche, etc. Enfin, vous voyez, on est quand même dans un truc où les outils nous facilitent la vie. Mais quelque part, les plateformes aussi, elles ont leurs contraintes. C'est que, certes, elles nous facilitent la vie, mais il faut pas oublier qu'ils sont maîtres chez eux. C'est eux qui font ce qu'ils veulent. Hier, je voyais des gens qui se plaignaient des nouvelles règles de YouTube. Enfin, nouvelles règles. Vous savez, YouTube, ils veulent mettre... ça fait des années que la vidéo verticale marche chez YouTube. Moi, j'en montrais à mes étudiants, aux personnes que je forme, je dis, mettre une vidéo verticale sur YouTube, ça va. Sauf que le lecteur de YouTube, autant sur smartphone, il passe bien, autant sur ordinateur, il passe pas. Donc YouTube est en train de changer ses interfaces, autant sur mobile que sur desktop, pour arriver à gérer ça. Et donc, il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais alors s'ils se mettent à adapter la vidéo, moi j'ai chiadé ma vidéo pour qu'elle soit belle en 16:9 ou belle en verticale, etc. » Et c'est eux qui vont choisir, suivant l'orientation du téléphone de la personne autour de son écran, s'ils la mettent, si ma vidéo 16:9, ils la mettent en verticale ou quoi que ce soit. Et donc, ça le faisait chier. Et ben, mais je comprends que ça soit chiant. Mais c'est YouTube, hein, ils les mettent chez lui. Hein. Et donc, les plateformes, on en est là. On en est à dire, et ben ils sont maîtres chez eux. Alors, pour revenir à ma question de base, cette histoire de où est-ce qu'on met son contenu. Moi, je suis un vieux de la vieille, et j'aime bien maîtriser la donnée, et je pense quand même que c'est pas mal que certains de nos contenus, on les ait à soi, sur son propre site, un endroit où on maîtrise tout de A à Z. C'est con, mais avoir un endroit où on stocke ses images sources, même si derrière, elles vont se dupliquer, se répliquer sur des... sur du Cloudflare, enfin tous ces outils-là de... comment ça s'appelle ? Des outils de distribution de contenu qui facilitent un petit peu la diffusion du contenu. Je parle pas des médiums, etc. Je parle vraiment des outils techniques qui vont répliquer le... Je parle là pour les moins techniciens de tous, ce qu'on appelle les CDN, c'est-à-dire que mon image est stockée en France, mais pour un Américain, le CDN va la dupliquer aux États-Unis pour qu'elle soit plus proche de lui. Moi je crois à ce truc là de dire j'ai un site, etc. Alors j'ai oublié un truc d'ailleurs sur la plateformisation, etc., sur l'histoire de ce contenu unique. Là il y en a un autre qui déconne, hein, dans l'histoire, c'est Google. Soyons honnêtes, hein, Google, on peut dire tout ce qu'on veut, ça, je comprends pas qu'ils aient pas réglé depuis des années cette histoire du contenu canonique, etc., quel est le premier à émettre l'information, quoi. Là, avec la puissance de calcul qu'ils ont, enfin, au lieu de faire des bagnoles autonomes ou je sais pas quoi, mais régler ce putain de problème, quoi. Enfin, il y a un moment donné, si moi je sors un billet sur mon blog, ils sont capables de le voir à quel moment je le mets. Pourquoi est-ce qu'il y a un mec derrière qui arrive, qui va me le dupliquer, qui va le recopier, etc., sortirait premier devant moi sur un contenu que moi j'ai publié? Ben, si, tant qu'ils n'ont pas réglé ce problème-là, À la limite, j'ai envie de vous dire, ils régleront pas le problème de la presse qui... Alors après, vous pouvez toujours dire, mais ils ont reformaté le contenu, etc. J'arrive pas à comprendre qu'avec la puissance de calcul qu'ils aient, ils arrivent pas à dire, le premier à avoir émis une information, c'est telle personne. Et que, quand vous fassiez une recherche sur mon conducteur bourré qui conduit le TGV, enfin, le, nous, c'est pas un TGV, c'est un intercité, c'est un tortillard, quoi. Ben, c'est le tel journal qui a sorti le premier l'information. Après, tel journal l'a mis en avant, tel journal l'a mis en valeur, etc. C'est là où, finalement, l'être humain a encore peut-être une place. On parlera de la curation dans les jours qui viennent. Mais Google aussi joue le jeu de ça, quoi. C'est, si vous avez, il suffit d'avoir un site... Enfin, il suffit. C'est un sacré boulot. Hein. Si vous avez un site optimisé SEO et compagnie pour le référencement, pour tout ça, et qu'il suffit de sortir... d'avoir un site super optimisé pour sortir premier celui devant le mec qui sort l'information mais qui est moins optimisé, c'est ça craint quoi. Je vous rappelle quand même que l'idée qu'il y avait derrière YouTube, derrière Google, pardon, mais YouTube appartient à Google, je mélange un peu tout, c'était quand même de dire, si on y réfléchit, quand je fais un lien vers un article pour Google, c'est un like, ce serait un j'aime. Par exemple, sur mon blog, je mets un lien vers un article, vers un autre blog. Je dis à Google, je dis, cet article mérite le détour. C'est comme un j'aime ou un partage en Facebook. Ça a la même valeur, c'est un vote. Je vote pour ce contenu. Et si tant que ça, ça marchait bien, eh ben, on était sûr, il y a un contenu à un endroit. Et dans la blogosphère, c'est ce qui se faisait beaucoup. Si on faisait des liens vers d'autres choses, etc. Il y avait tout un tas de systèmes qui permettaient de le faire. Et c'était, on votait pour des contenus intéressants. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, au lieu de voter, on fait un duplicata, etc. Et c'est là, voilà. Bon. Allez, vous avez compris que c'est un sujet qui m'énerve un peu, et je suis parti un petit peu loin de ce que je voulais. Mais c'est aussi ça, le bonheur du podcast. Donc, je disais, personnellement, moi, je suis un vieux de la vieille. On peut travailler avec des sites sans base de données, quel que soit le site, mais j'aime bien me dire que, quelque part, l'information que je publie sur Internet... La quintessence, la plus belle partie de ce contenu-là, il est quand même stocké à des endroits où il y a deux choses. Soit c'est chez moi avec un hébergement que je paye avec mes contenus et je peux récupérer les sauvegardes à tout moment. Soit je le mets sur des plateformes où je suis assuré de pouvoir récupérer le contenu. Ce qui n'est pas le cas de nos amis Facebook, ce qui n'est pas le cas de certaines plateformes. Mais ce qui est le cas de d'autres, si vous êtes chez WordPress.com, vous pouvez toujours exporter votre contenu. Chez Medium, je crois qu'il y a un export. Comme faisait remarquer Lionel dans la discussion qu'on a eu l'autre jour, on a le problème de l'interactivité. On récupère pas les commentaires, etc. Mais on a d'autres plateformes où on pourrait mettre son contenu. Par exemple, des vidéos de formation, on peut les mettre sur Teachable ou je sais pas où, etc. Sur plein de plateformes. Mais quelque part, l'essentiel, c'est de se dire, vous avez votre contenu de base. Qu'est-ce qui se passe si la plateforme ferme? Qu'est-ce qui se passe? Le nom de domaine, c'est là l'avantage qu'il a, la beauté du nom de domaine. Si un jour, alors je sais pas si ça va fermer un jour, mais voyez, moi par exemple, mon blog a tourné pendant des années sur WordPress, maintenant je l'ai passé sur Ghost. Le nom de domaine, les URL, tout est resté. Enfin, il y a eu un petit couac au changement, mais le contenu, il est là. Mon blog a 17 ans, hein? Quoi? Je sais pas, j'en sais rien, non pas 17 ans. Mais le contenu, il faudra que je regarde quand même, merde. Excusez-moi, je me pose la question, vous voyez, je sais plus combien de l'âge de mon premier billet de blog, qui à l'époque s'appelait pas un blog d'ailleurs. Mais ce contenu-là, il est toujours là. Et alors on pourrait dire, ouais, on pourrait faire de l'archéologie, quoi, on pourrait aller rechercher des trucs. Enfin, il y a des trucs, je me dis. J'ai lu un article hier sur les Xéniales. Vous savez, si vous êtes des Xéniales, c'est vous êtes né dans les années fin 70, début 80. Vous avez grandi sans internet et vous pouvez plus vivre sans. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Et ça se trouve sur mon blog, en cherchant, il se pourrait que j'aie marqué un jour, tiens, je me suis inscrit dans un nouveau site qui a l'air sympa, c'est Facebook. Tiens, une fois je cherche, ça y est pas. Mais ça je peux le faire parce que le contenu, bah il est chez moi, il m'appartient, et puis je m'amuse avec, etc. Et j'ai envie de dire, on a, je pense. Pour essayer de répondre à cette espèce de question finale là que j'ai posée au départ, je me dis, peut-être que probablement, en fait, la réponse, elle est un petit peu là-dedans. C'est-à-dire qu'on a des contenus, le contenu qu'on veut vraiment vendre, le crochet droit de Gary Vaynerchuk, là, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce contenu-là, moi, je trouve qu'il devrait être chez nous. Quelque part, il est chez nous. C'est là où on peut limiter son accès, le vendre, contrôler l'accès, etc. Si on fait de la vidéo de formation, par exemple, la vidéo de formation, on peut la donner, mais si on la met sur son site à soi, etc., avec des accès et autres. Par exemple, on peut utiliser des plateformes de vidéos type Vimeo. Si vous payez un abonnement chez Vimeo, vous pouvez dire que votre vidéo n'est vue que sur votre plateforme à vous, c'est-à-dire même si vous la mettez derrière cachée par un mot de passe ou quoi que ce soit, elle ne sera pas vue sur Vimeo, elle sera vue que chez vous. Mais vous profitez de l'interface technique de Vimeo quand même pour en profiter. Et donc, je me dis, ces contenus-là, ces billets de blog un peu importants, etc., on les stocke chez soi. Et ce qu'on va stocker un petit peu autour, eh ben, c'est des contenus qui ont peut-être moins de durée de vie. C'est hier, j'ai mis sur une story Instagram, j'ai mis une photo de moi en train de manger de la glace avec ma casquette sur la tête à 22h dans la télé. C'est des petits bouts de contenu, des petites stories qui n'ont pas de valeur, etc. C'est ces types de contenus-là. Même de la photo Instagram, moi de la photo Instagram, quand elle est belle, je la réplique chez moi, je la remets dans mon blog, je mets une sélection de mes photos, etc. Mais il y a des photos qui n'ont pas de valeur, enfin pas de valeur. Je les aime bien, mais je sais pas si elles auraient de la valeur. Si je devais faire le best-of de mes 100 photos de l'année, vous voyez, c'est, enfin, ou même, enfin, allez, partons sur 100. J'en regarderai quelques-unes là-dedans, enfin voilà, mais toutes mes photos Instagram, j'estime qu'elles n'ont pas toutes de la valeur, etc. Et celles qui ont dans les stories, encore moins. Et sur Snapchat, d'ailleurs, c'est la grande force de Snapchat, c'est de se dire, on met un contenu éphémère qui va disparaître. Si c'est un contenu qui a de mauvaise qualité, il sera de mauvaise qualité, mais il va disparaître. Mais, par exemple, sur Snapchat, il y a le système de Discover. Vous voyez, Snapchat demande aux gens de... Si, par exemple, si vous êtes Le Monde, L'Équipe ou quoi que ce soit, vous voulez faire du contenu pour Discover, la partie actu, il faut quand même avoir 8 personnes dans votre équipe pour faire ce contenu-là. Donc imaginez investissement, quoi. Eh ben, est-ce que ce contenu-là, vous allez pouvoir le mettre que sur Snapchat en éphémère? Moi, sincèrement, je trouve que c'est un piège à con de la plateforme. Et j'espère d'ailleurs que c'est les équipes du Monde, etc., peuvent le mettre ailleurs. Mais j'en sais rien, je sais pas. Enfin bref, nous, quand on est tout petit à côté de ça, ce jeu à la con, je trouve qu'on peut pas le jouer. Et qu'on ne peut pas vraiment le jouer, parce que dans le temps, si je m'amuse à mettre tous mes articles sur sur Facebook articles, c'est sympa, hein, ça marche bien, etc., je les ai utilisés. Mais par exemple, moi, je les ai utilisés en me disant, bah, tiens, je refais un qui va faire des liens vers mon blog. Ouais, le fonctionnement de l'information, circulation, etc. Travailler un peu le référencement, enfin, cette notion-là. Voilà. Mon truc à moi, voilà, c'est ça, c'est de dire, on a des contenus, ceux qui nous tiennent à cœur, etc., ceux qui ont vraiment de la valeur, on les stocke chez nous, sur des plateformes, où on peut récupérer l'information, on a les sources, etc., et on les met surtout à un endroit où on aura un nom de domaine. C'est-à-dire que le jour où j'ai envie de changer de plateforme, à la limite, je les déplace. C'est le nom de domaine pour moi, je vous l'ai dit, c'est la base, parce que c'est là-dessus qu'on va mettre le qu'on peut déplacer, qu'on peut en faire ce qu'on veut. Avoir la maîtrise de nos informations, c'est quand même super génial, hein, avouez-le. On n'en est pas encore à l'époque, dans l'époque on aura des réseaux sociaux décentralisés où chaque contenu qu'on met sur un réseau social nous appartiendra, mais parce que je pense qu'on n'y est pas, parce que le jour où il faudra expliquer aux gens qu'il faudra payer un hébergement pour stocker ce qu'ils mettent sur Facebook, imaginez le bordel. Mais quelque part, nous, quand on est dans cette logique de création de contenu, je pense que c'est le truc. On met un nom de domaine, un endroit où nos contenus les plus importants sont bien rangés, bien stockés, etc. Même si derrière, on peut les cacher derrière un mot de passe si on veut les limiter à certaines personnes, etc. Mais c'est ma logique. Voilà ma conclusion. Ben, vous voyez, je sais pas si j'arriverai à une conclusion. Je me suis un petit peu... Vous voyez, c'est un sujet qui me tient à cœur, quand même, un bordel, hein. Je pensais partir sur un épisode un peu court, puis... Oh là, le temps passe, etc. On est à 48 minutes. Mais voilà, il me tient à cœur et je pense qu'il en reviendra. C'est la discussion est lancée. Alors je vous propose qu'on continue la discussion. Alors vous pouvez la continuer sur Twitter, sur Facebook. Ou je vous rappelle que j'ai créé hier un groupe de discussion qui s'appelle le Club des Créateurs de Contenu. Que je vais commencer à diffuser là doucement, tranquillement, sur lequel dessus ben on va parler justement de ces questions là qu'on peut se poser, de s'échanger des conseils, vous pouvez montrer ce que vous faites, vous pouvez demander des avis sur ce que vous faites, du matériel, une bonne question, quel matériel choisir par exemple, ben c'est le genre de questions que vous pourriez venir poser là-dessus sur ce groupe Facebook. Qui est visible, dont le contenu ne sera visible que par ceux qui en sont membres. Donc je vous invite vivement à venir participer. Et d'ailleurs, vous remarquez la grande logique du truc, c'est que J'ai mis ce contenu sur un groupe Facebook parce que c'était plus simple à ouvrir plutôt que de le mettre sur un forum que je regarde chez moi. Mais c'est pour une question de facilité, là encore. Mais je ne suis pas certain de la durée de vie à long terme, pour l'instant, de cette communauté. C'est un essai. On verra dans le temps si ça se développe et ce qu'il faut en faire par la suite. Voilà. Sur ce, cet épisode se termine. C'était un épisode un poil confus, un poil enflammé sur certains sujets, mais je pense qu'il me correspond bien, parce que j'avais besoin de réfléchir, et je remercie Lionel pour cette bonne question, très pertinente. Vous voyez, ça, il me l'a posé vendredi, je crois, qui m'a travaillé la tête un bout du week-end, puisque là, j'enregistre lundi, hein, pour ceux qui sont pas, qui l'entendent pas au jour le jour. Donc, vous voyez, ça fait 3 jours que ce truc-là me tourne dans la tête, mais en fait, ça fait beaucoup plus longtemps que ça me tourne dans la tête. Et donc, maintenant, je vais appuyer sur le bouton arrêter. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, une belle fin de journée sur le moment où vous écoutez ça. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous mets tous les liens, toutes les notes de l'émission dessous. Enfin, tous les liens sont dans les notes de l'émission. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de ce podcast. Allez, ciao ciao, portez-vous bien, créez du contenu. Salut!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.